Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
Hello. On accueille Maude Goyer et on se pose des questions sur l'école, évidemment, là, dans la capitale nationale et à l'intérieur de la CMM. On va possiblement... Bon, je parle encore au conditionnel quand même, là, mais tout indique qu'on sera désormais dans des zones rouges. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur les élèves, sur les parents? On va se poser toutes ces questions avec Maude. Salut!
Salut Geneviève!
Bon, toi, quand t'as entendu tout ça, puis là, évidemment, on va en savoir plus au point de presse tantôt. Là, je pense que l'objectif ici, ce n'est pas de fermer les écoles. Christian Dubé l'a bien précisé. L'objectif, c'est que les gens puissent continuer à aller travailler, que les enfants puissent continuer à fréquenter leurs établissements scolaires respectifs. Mais quand même, il y a des parents qui sont en train de se dire que ça serait peut-être pour le mieux de refermer. Toi, t'es où par rapport à tout ça?
Mais en fait, moi, j'y vais vraiment, Geneviève, avec les faits et la science. Hein, mon petit côté...
Ah, musique à mes oreilles!
Mais je me méfie du côté polarisant de ce débat-là parce qu'on s'entend, Geneviève, il y a des arguments là, très forts pour et contre. T'sais, puis là, je vais t'en donner quelques-uns. J'ai fait une petite recherche. Premièrement, il faut savoir qu'en ce moment, c'est 15 % de l'ensemble des écoles qui sont touchées au Québec par au moins un cas. Mais 15 % ça peut sembler un gros chiffre, mais en fait, pour les élèves en tant que tels, on est bien en dessous du 1 %. On est à 0,06 %. C'est en ce moment, là, les chiffres officiels du ministère, c'est 736 élèves qui ont un cas positif sur 1 300 000 élèves totaux au Québec. Fait que c'est 0,06 %. Il faut juste garder ça en tête. T'sais. Fait que c'est pas, on n'est pas dans les grosses éclosions dans les écoles au Québec. Là, ça va assez bien. T'sais, moi, je pense que l'éducation, on peut donner un A à son bulletin. Là. Ça se passe quand même bien.
Et là, moi, je ne donnerais pas un A au ministre de l'Éducation pour d'autres raisons, mais c'est vrai que, par contre, depuis le printemps, c'est recommencé l'école en dehors de la région de Montréal. Et ça se passe bien, globalement.
Ben, c'est ça, exactement. Donc, il ne faut pas oublier ça. Puis après ça, il faut voir c'est quoi les effets à long terme. Si on décide, en fait, de refermer les écoles, ouais. C'est quoi les bénéfices? Parce que ça, c'est une question de balance. Là. Il y a des avantages, des bienfaits, des inconvénients, des problèmes à garder ou à ouvert, ou garder ouvert ou à fermer. T'sais, comme par exemple, tout le côté du filet social. On le sait que les élèves, il y a des enfants qui sont plus vulnérables, qui le club des déjeuners sont débordés. Geneviève, en ce moment, débordée de demandes. Puis on aussi la DPJ, les cas ont explosé à partir du moment où les écoles et toutes les garderies ont ouvert à nouveau. Donc, on le sait que pour dépister les problèmes de violence, de négligence, des enfants qui ont faim, ben au Québec, en 2020, il y en a. Puis le filet, le premier, la ligne qui répond à ça, c'est la ligne des gens qui sont directement en contact avec les enfants, puis ça se passe à l'école. Donc, quand on sait ça, là, on se rend compte de l'importance de garder les écoles ouvertes. C'est pas juste pour le développement pédagogique puis le parcours scolaire. Parce qu'évidemment, il y a ça aussi. On veut que nos enfants continuent à avancer. Donc, il y a le côté développement. Il y a la santé mentale, non, des parents.
Oui, la santé mentale des parents. Très important de le souligner.
Et des enfants, tu sais, parce que là, puis les parents, mais on retourne travailler. Donc, il y a tout l'aspect économique aussi, tu sais, c'est l'équilibre d'une société, de travailler, d'avoir des revenus, qu'on continue d'avoir un certain équilibre financier, parce que là, le gouffre financier dans lequel on s'en va, c'est une autre affaire.
Il y a des gens qui diraient, montre que tu fais de la politique, pas de la santé publique, qu'on ne faut pas mettre la santé économique en avant de la santé physique.
Totalement, je comprends. Je pense que ça fait partie des arguments pourquoi il faut ouvrir, il faut garder les écoles ouvertes. On peut pas nier que c'est important quand même. Puis encore plus important, je te dirais, l'information qui circule entre les deux. T'sais, la santé publique, il faut qu'elle parle aux directions d'école. J'entendais ton entrevue tantôt.
Transparence.
Oui, c'est ça. Ben exactement. C'est super important dans ce cas-ci. Puis après ça, il faut se demander, Geneviève, qu'est-ce qu'on sait des enfants qui sont vecteurs? C'est quoi? Est-ce que les enfants vraiment, ils transportent le virus?
Là, on nous a dit plein de choses à ce niveau-là. Là, on est rendu où, là? Parce que, bon, moi, dans mon livre à moi, les enfants, ce sont littéralement des petits vecteurs de microbes et pas juste de COVID-19, là, de tout.
Ben, en fait, oui et non. En fait, le docteur Arruda, ce qu'il a dit récemment, la santé publique, ce qu'elle a dit récemment, puis ça, je l'ai bien entendu, c'est que, en fait, les cas viennent souvent de la communauté et non de l'école elle-même. Donc, l'école est le reflet de ce qui se passe ailleurs. Autrement dit, si tes mesures, ton traçage, ton dépistage, ta réponse est rapide à l'extérieur, ça va bien se passer à l'école. C'est pas l'école qui est l'éclosion. L'école
mais
est
pourtant,
le reflet de ce qui se passe ailleurs.
Pourtant, c'est tentant de faire un lien. On se dit, ah, montée des cas, c'est la rentrée scolaire, il y a un lien à faire.
Ouais, mais
c'est pas ça.
Je pense que c'est plutôt l'inverse. En fait, dans le monde, j'ai regardé le site de l'OMS, les cas rapportés partout dans le monde des 18 ans et moins, ça représente 8,5%. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et 12 ans et moins, 2%. On est à 2%. Donc, on n'est pas différent au Québec d'ailleurs dans le monde. Donc, ça se ressemble beaucoup. Et l'OMS qui a dit de toutes les recherches scientifiques qui ont été faites, le rôle de transmission des enfants est encore mal compris. Ça semble limité et ça semble proportionnel, bizarrement, selon l'âge. Plus les enfants sont petits, moins ils sont des vecteurs importants. Plus ils sont vieux, plus ils approchent de 18-20 ans, plus ils transportent et ils transmettent plus facilement.
L'adulte 20 ans, ce sont des adultes de toute façon, là.
C'est ça. Donc ils deviennent les vecteurs plus importants. Par contre, d'un autre côté, là, je vais te donner un argument, un contre-argument.
Je vais être encore plus mêlée après.
Tu regardes les études. Oui, mais sauf que tu vas être informé, par exemple. Tu as des bons, là, tu as des faits fiables, selon moi. Donc, tu sais, en 2006, il y a eu une grosse étude qui a été faite sur l'influenza et ça a démontré que fermer les écoles a aidé à aplanir la courbe.
Ben oui, c'est
donc,
sûr.
Une étude de 2006, ça a fait baisser de 40% les cas. Après ça, 2016, ils ont fait une étude H1N1. Ça, c'est toujours sur le site de l'OMS que j'ai trouvé ça. Mm-hmm. Pandémie de 2009, on s'en souvient. En fermant les écoles, ça a aidé à planer la courbe de 25%. Donc, c'est difficile de savoir vraiment où tracer la ligne. En ce moment, dans le monde, j'ai fait une petite recherche. La plupart des écoles sont encore ouvertes. Dans les pays où est-ce qu'il y a la deuxième vague, parce qu'encore là, le Canada, on n'est pas différent des autres pays. Tout le monde fait face à une deuxième vague en ce moment, sauf en Asie où ils sont dans une troisième vague. Je le dis, j'ai le goût de pleurer. Mais c'est ça. Donc, les écoles, la plupart sont encore ouvertes. Puis si on se base sur, on sait que le risque zéro n'existe pas, mais ce qu'il faut observer, je pense, puis j'espère que c'est ça qu'ils font nos chers dirigeants gouvernement, ce qu'il faut observer avant de décider si on ouvre ou on ferme, bien, entre autres, c'est quoi les mesures qui sont mises en place, j'en parlais tantôt, à l'extérieur de l'école. Qu'est-ce qui est fait en termes de dépistage, de traçage, de réponse? Est-ce qu'on est en train de répondre à ça vite? Puis là, j'ai l'impression qu'on est comme débordé.
Bien, il y a du monde, je disais ça en fin de semaine dans les journaux, là, des gens qui attendent d'avoir les résultats de test de leurs enfants depuis 7 jours, 8 jours, c'est long, là.
Ouais, moi, j'ai donné mon nom, Geneviève, il y a 7 jours, petite confidence, pour faire du traçage. Tu sais, je suis une journaliste, je me suis dit, bien, une journée par semaine, je pourrais aller aider.
Oui, ça fait partie de ta formation.
Ben, j'ai pas été appelée par la santé publique. Fait que je me dis, ben, ils ont besoin de monde, mais ils ont peut-être pas besoin de tant que ça, ou alors mon profil ne correspond pas parce que j'ai pas été
appelée. Ouais, mais attends, on l'a vu, Maud, dans toute la saga, je contribue, là. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que là, ils font les tris, puis après ça, ils déterminent, puis en même temps, écoute, il y avait besoin de préposés bénéficiaires, puis plein de gens pour aller les aider dans les CHSLD, puis il y avait des gens clairement motivés à aller les aider qui recevaient pas d'appels. Fait que je pense que ce système-là, il est à peaufiner.
Mais ils sont débordés, puis ça m'inquiète parce que je me dis, si on n'est pas en train de retracer d'où viennent les cas, puis on n'est pas en train de faire le profil, ben la toile d'araignée est en train de s'agrandir, puis là, on l'a perdu de vue, là. Mm. C'est ça. Donc, c'est là que la fermeture, ouverture des écoles, je pense que ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, tout comme l'intensité de la transmission communautaire. Ça, on a-tu un portrait exact de à quel point en ce moment elle se transmet? Je suis pas sûre. Je sais pas. Ben, c'est quoi notre capacité de faire l'école à la maison? On a tous les outils.
Aucune! Chez nous, aucune! J'en ai pas.
C'est extrêmement variable. C'est très variable. J'en ai un à l'école privée au secondaire, j'en ai une à l'école publique au primaire, puis on est dans deux mondes. Là. C'est complètement différent.
Non, mais les parents qui travaillent là, dans les services essentiels, qui doivent aller tous les jours au bureau, qui sont pas en télétravail, là, peuvent pas laisser leurs enfants en maison sur des iPads toute la journée. Là. Moi, je l'ai fait au printemps. Là. Pour vrai, là, je suis venue animer ici chaque jour. Pendant que ma fille de 13 ans s'occupait de son frère puis de sa sœur, ça veut dire que ma fille de 13 ans faisait les repas, faisait du lavage, s'occupait de son frère et sa sœur, s'occupait de les mettre devant leur iPad pendant les zooms en plus de gérer les siens. Est-ce que tu penses que elle trouvait pas ça lourd? Ça a pas de sens de mettre ça entre les mains d'une enfant comme ça. Puis ma fille est pas la seule, là. Nos enfants ont grandi très, très vite au printemps. Très, très vite.
Ben, on a vécu, j'ai vécu sensiblement la même chose. C'est vraiment pas facile. Puis aussi, il y a tout le risque on le sait, de dérapage, dans le sens qu'il y a des professeurs qui sont pas très bons avec l'électronique. Il y a des enfants qui font d'autres choses que des cours en ligne. Là, on le sait que l'école à distance, moi, je veux que les écoles restent ouvertes, mais est-ce que ça va être possible? Moi, je peux pas croire que cet enfant qui va nous annoncer que les écoles ferment. Je ne pense pas.
Non, on n'est pas là. Moi, je pense pas non plus. Mais est-ce que peut-être, si ça continue à augmenter, on aura de l'école en alternance, comme le suggérait tantôt Mme Marois-Risky? Peut-être. Est-ce qu'on aura des écoles comme celle de Longueuil qui vont fermer? Ça, c'est à n'en point douter. Là, s'il y a des éclosions, ils vont le faire. Mais je pense pas qu'on va revenir vers un confinement général. On l'a vu là chez les enfants, ça a des conséquences quand même assez incroyables sur le long terme. Chez les tout-petits aussi, c'est assez difficile à réussir. Une chose est
ouais. Il ne faut pas oublier les populations plus vulnérables. Geneviève, moi, ça me brise le cœur de voir quand le confinement a eu lieu, ben les cas rapportés ont chuté à la DPJ comme si tout à coup, il n'y avait plus de violence puis il n'y avait plus de négligence, alors que c'est pas ça. Fait qu'il faudra, mais c'est sûr, en tout cas, qu'il va toujours avoir un équilibre entre la reprise de la vie normale puis le devoir de limiter la propagation du virus. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, là, on est là-dedans. Ça va toujours. J'aimerais pas faire ta place de M. Legault.
Le nouveau normal.
C'est quand même difficile à gérer. Ouais. C'est toujours en laisser aller, en reprendre, tu veux satisfaire tout le monde, puis en même temps, ben il faut pas surcharger les hôpitaux, ce qui est exactement en train d'arriver en ce moment.
Il va y avoir beaucoup de gens, selon moi, qui vont écouter ce point de presse à 17h30. Oui. On va le diffuser par ailleurs. Maud Goyer, merci, on te retrouve lundi. Merci beaucoup.
Merci, Geneviève.